Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de France Culture et de l'Odéon Théâtre de l'Europe pour une nouvelle session d'un rendez-vous que nous avons inauguré avec Luc Bondy, le patron de ce théâtre auquel nous dédions bien sûr cette scène imaginaire. Après Luc Bondy, Alain Françon, Patrice Chéreau, Joël Pommerat, Aurélie Calidel se sont prêtés à cet exercice qui se propose de faire le portrait sensible d'une personnalité du monde du théâtre à travers un entretien que j'ai le plaisir de mener, mais aussi à travers des textes qui sont choisis par notre invité, l'auteur et metteur en scène qui a accepté ce soir de se prêter au jeu de ces scènes imaginaires, c'est Romeo Castellucci. Les amis que Romeo Castellucci a conviés pour cette soirée sont des auteurs et des acteurs, avec la complicité de Baptiste Guiton qui réalise cette soirée pour France Culture. À notre affiche, donc, David Foster Wallace, Clara Chabalier, Giorgio Colli, Franz Rosenzweig, Pierre-François Garel, Johann Jakob Bachofen et Friedrich Hölderlin. Certains noms à notre affiche ne seront pas présents avec nous cet après-midi. Ils le seront par leurs écrits. Pour les donner à entendre, je vais vous demander d'accueillir Clara Chabalier et Pierre-François Garel. Et bien sûr, j'invite à me rejoindre sur ce plateau de l'Odéon, Romeo Castellucci. Alors, quelques mots en préambule, même si le fan club est là, mais pour rappeler quelques éléments, pour dire que vous êtes né à Cesena, vous êtes diplômé des Beaux-Arts en scénographie, en peinture à Bologne, que vous avez fondé votre compagnie, la Società Raffaella Sanzio, à l'âge de 21 ans, c'était en 1981. Cette Orestie à l'affiche de l'Odéon dans le cadre du Festival d'automne, vous l'avez joué à Strasbourg en 1997. L'année suivante, c'est avec un Giulio César et que vous étiez à Avignon pour la première fois. Vous êtes revenu souvent, notamment en 2008, l'année où vous avez été artiste associé avec Valérie Dréville à ce Festival d'Avignon. Vous avez présenté cette année-là un triptyque autour de Dante, Inferno, Purgatorio, Paradiso. Vous aimez décidément les triptyques puisque vous avez proposé deux fois trois œuvres pour le portrait que le Festival d'automne vous a consacré en 2014 et en 2015. Entre-temps, rappelez aussi que votre spectacle sur le concept de visage du Fils de Dieu présenté à Avignon en 2011 a suscité des attaques très violentes, on s'en souvient, lors des représentations parisiennes notamment, mais aussi dans d'autres villes. Enfin, dire aussi que depuis 2011, justement, vous avez aussi signé cinq mises en scène d'opéra. La plus récente, Moïse und Aaron de Schoenberg, vient d'être donnée à l'Opéra de Paris. Mais puisque ce sont les livres, les textes qui nous réunissent aujourd'hui, Romeo Castellucci, j'avais envie de vous demander, pour commencer, quelle place occupaient les livres dans votre enfance, dans votre jeunesse? Est-ce qu'il y avait une bibliothèque chez vos parents?
Pas vraiment. Moi, ma jeunesse, c'était marqué par des choses plutôt banales. J'ai passé toute la majorité de la journée dans la rue avec des compagnons à faire des bêtises. J'ai découvert la littérature après l'histoire de l'art. Donc ça, que la chose qui m'a marqué, qui a changé ma vie, c'était la rencontre avec un livre d'histoire de l'art que j'ai découvert grâce à ma sœur, à l'étude que ma sœur elle faisait à cette époque, liceo artistico. Et donc voilà, j'ai découvert ce monde qui m'a changé. Et après, oui, à travers l'histoire de l'art, la peinture, la sculpture, récupéré aussi la littérature. Et donc, tous les côtés de l'imagination et de la fantaisie.
Quelle place occupent les livres dans votre vie? Est-ce que vous avez un rapport compulsif à la lecture? Quand vous découvrez un auteur, vous avez envie de tout lire? Vous avez des livres sur lesquels vous revenez?
Absolument oui. Pour moi, c'est un acte absolument nécessaire, mais c'est vraiment une forme de nécessité primaire. Je peux pas rester sans un livre pour quelques jours, par exemple. C'est comme une nécessité, c'est comme manger. Je change beaucoup, donc je suis normalement très curieux. Et donc voilà, mon intérêt c'est plutôt large et plutôt aussi prévisible. Il y a beaucoup de fictions, surtout de fictions, je pense. Et oui, dans le passé, plutôt la philosophie ou les textes de théorie, d'esthétique, etc. Mais je pense que pour la majorité, maintenant, je suis en recherche d'un bon livre de narrative, de fiction.
On va voir que ce soir, il y a peu de fiction, beaucoup d'essais. Mais justement, quand on vous a fait cette proposition de scène imaginaire, vous avez pensé évidemment à beaucoup de livres. Certains, alors pour des raisons pratiques, parce qu'ils n'étaient pas traduits en français, par exemple, figurent pas à notre affiche. Mais est-ce que, bon, on a fait un choix, on va le découvrir ensemble. Mais est-ce qu'il y a des livres que vous auriez aimé ajouter à cette liste-là?
Ah là là, c'est infini, c'est presque impossible. C'était extrêmement difficile de faire une liste, parce que il y a eu des écrivains extraordinaires. Donc c'est une liste absolument très limitée, nécessairement, mais pourquoi pas. Ce sont probablement même pas les livres que j'aime le plus, mais je pense que aujourd'hui, ça c'est le choix que ça peut être utile, même pour les choses que je présente ici en ce moment. À Paris, dans le cadre du Festival d'automne, je pense qu'il y a un peu de connexion avec tout ça.
On va en voir quelques-unes de connexions, mais alors, parmi les connexions, on verra au fil des lectures la place que vous accordez aux femmes. Il n'y a pas d'auteur femme dans votre liste, Romeo Castellucci?
Oui, c'est vrai. C'est
qui y aurait-il pu avoir, alors?
Flannery O'Connor, probablement. C'est le premier nom qui apparaît. Mais c'est vrai que l'histoire de la littérature a, comment dire, comme dans la peinture. Donc la femme est sortie plus tard dans l'histoire de la littérature et aussi de l'histoire de l'art. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, cette limite n'existe plus, n'a aucun sens. Mais c'est vrai que l'histoire a été comme ça, a été marquée par des hommes. Mais heureusement, on a des autres pistes maintenant.
Je me suis aperçu justement à propos de l'histoire, et sans que ça en soit la raison, que l'ordre des lectures, imaginé par Baptiste Guiton, allait nous faire un voyage à rebours dans le temps, ce que je trouve assez pertinent pour vous. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle... session du portrait du Festival d'automne, il y a un retour aux Grecs. Évidemment, on va beaucoup parler des Grecs et de l'Antique. Mais on va d'abord commencer même par le plus proche de nous dans le temps, par David Foster Wallace, un auteur américain qui s'est suicidé à l'âge de 46 ans, c'était en 2008, mais qui a laissé beaucoup de textes, beaucoup d'essais, beaucoup de nouvelles, des romans. Le plus fameux d'entre eux, il l'a écrit en 96, il vient de paraître en France sous le titre « L'infinie comédie ». Aux éditions de l'Olivier, c'est une traduction de Francis Carline. Vous avez choisi deux passages qui s'intéressent, on va le voir, à la fois à la question du jeu du comédien, à une autre forme de mythologie aussi, avec la figure de Marlon Brando, mais j'en dis pas plus. C'est Clara Chabalier qui va lire le premier extrait et Pierre-François Garel le second. On les écoute.
Donc c'est l'infinie comédie de David Foster Wallace, traduit de l'anglais par Francis Carline. Cosgrove Watt avait été l'un des très rares acteurs professionnels engagés par soi-même, lequel préférait employer des amateurs. Soi-même voulait qu'ils se contentent de lire leurs textes, avec la maladresse du trac d'un amateur, sur les cartons que Mario ou Disney Lathe leur montraient pendant qu'ils jouaient, en se postant du côté où le personnage était censé regarder. Jusqu'à la dernière phase de sa carrière, soi-même avait pensé que le ton haché et monocorde d'un non-professionnel aidait à gommer l'illusion pernicieuse du réalisme, et à rappeler aux spectateurs qu'ils regardaient un acteur jouant et non une personne réelle. À l'instar du français Robert Bresson, qu'il admirait tant, soi-même refusait d'abreuver le public de réalisme illusoire, disait-il. L'ironie consistant à recourir à des non-acteurs pour rendre cet artifice du « je ne suis qu'un acteur » fut l'un des rares aspects de ses premières œuvres qui intéressèrent vraiment les critiques académiques. Mais la vérité est que le soi-même des débuts ne voulait pas qu'un jeu crédible, expérimenté, vint faire de l'ombre aux idées abstraites et aux innovations techniques de ses cartouches. Et en ce sens, il était plus proche de Brecht que de Bresson.
Jim, pas comme ça, Jim. On traite pas une porte de garage comme ça. On se plie pas en deux tout raide en tirant sur la poignée, sinon elle se soulève d'un coup. Elle râpe tes tibias et mes pauvres genoux, fiston. Je veux te voir te plier sur tes solides genoux. Je veux te voir saisir la poignée en douceur. Je veux que tu sentes sa texture et que tu tires juste comme il faut pour qu'elle vienne vers toi. Apprends, Jim. Mets juste la force nécessaire pour déclencher le mouvement. Laisse la porte basculer sur ses roulettes huilées et ses poulies fixées aux poutres couvertes de toile d'araignée. Dis-toi qu'une porte de garage, c'est comme celle d'une rôtisserie, avec de la viande chaude dedans, de la chaleur qui sort, brûlante. C'est inutile et dangereux de forcer, de tirailler, de pousser, de malmener. Ta mère est une pousseuse et une malmeneuse, fiston. Elle traite les corps des autres sans respect, sans attention. Elle a jamais compris que traiter les choses avec calme et douceur, c'est aussi traiter son propre corps avec plus d'efficacité. C'est la faute à Marlon Brando, Jim. Autrefois, en Californie, avant que tu sois né, avant qu'elle devienne une mère dévouée, une épouse endurante, un vrai soutien de famille, fils, ta mère a joué un petit rôle dans un film avec Marlon Brando. Son heure de gloire. Elle avait des petits souliers, des soquettes, une queue de cheval et devait se boucher les oreilles quand des grosses motos arrivaient en pétaradant. Un grand numéro d'actrice, crois-moi. Depuis, elle a toujours été amoureuse de ce Marlon Brando, fils. Qui? Jim, Marlon Brando était l'archétype du nouvel acteur qui a bousillé la relation, je dirais, de deux générations entières à leur corps et à tous les objets et au corps autour d'eux. Non? Eh ben, c'est à cause de Brando que t'allais ouvrir la porte comme ça, Jimbo. Le manque de respect, ça s'apprend et ça se transmet. Ça s'hérite. Tu reconnaîtras Brando quand tu le verras. Et t'apprendras à te méfier de lui. Brando, Jim Vindieu, B-R-A-N-D-O, le nouvel archétype du caïd rebelle et rusto, penché en arrière, sur sa chaise, qui marche de traviole dans les couloirs, qui se frotte contre tout ce qu'il voit, qui essaie de dominer les objets sans le moindre respect ni soin. Il attrape les choses comme un enfant boudeur. Il s'en sert et il les balance n'importe comment, il rate la corbeille, et elle reste à traîner par terre, avec des gestes impétueux, maladroits et l'attitude d'un gamin colérique. Ta mère fait partie de cette nouvelle génération qui caresse la vie à rebrousse-poil, qui la tord, enfonce ses barrières. Elle a peut-être aimé Brando, Jim, mais elle l'a pas compris. C'est ce qui l'a rendu inapte à la manipulation des objets du quotidien, comme les rôtissoirs, les portes de garage et même sur les cours de tennis merdiques des jardins publics. T'as déjà vu ta mère avec une porte de rôtissoir? C'est un carnage, Jim. Ça fait peine à voir. Et la pauvre croit que c'est un hommage à ce Jean-Foutre ravachi qu'elle aimait entendre pétarader. Jim, elle a jamais deviné qu'il y avait toute une tactique derrière cette façon brutale et apparemment nonchalante de manier les objets. Tu penses qu'il s'était entraîné à se tenir vautré comme ça, sur les deux pieds arrière d'une chaise inclinée? C'était étudié. Il avait un œil de soudeur pour déterminer le point de rupture de tous les trucs qu'il m'admenait comme un gros dégueulasse. Elle a jamais, jamais vu que ce Marlon Brando connaissait tellement bien son propre corps qu'il n'avait pas besoin de faire des manières. Elle a jamais pigé que ce je m'en foutisme, c'était de la frime, qu'il touchait tout ce qu'il touchait comme si c'était une partie de lui-même, de son propre corps. C'était instinctif tout ça. Il y allait au feeling. Et personne, surtout pas elle, ne comprenait ça. Le raisin était trop vert, tiens. On peut pas envier quelqu'un comme ça. Le respecter, je dis pas. Mettons un respect envieux, peut-être, à la limite. Elle a jamais compris que ce que faisait Brando sur les plateaux de tournage d'un bout à l'autre du pays, c'était l'équivalent du tennis de haut niveau, Jim. Voilà ce qu'il faisait. Jim, il se déplaçait comme un bouchon sur l'eau, un gros muscle, avec une naïveté musculaire, mais toujours, note bien, toujours dans le bon sens du courant. Une sorte de grâce animale. Cet enfoiré n'a jamais un geste inutile. C'était de l'art, cette indolence de brute. Il avait des principes de tennisman. Touche les choses avec considération et elles t'appartiendront. Tu les posséderas. Elles bougeront ou resteront en place à ton gré. Elles se coucheront sur le dos, écarteront les jambes et t'offriront leurs coutures les plus intimes. Elles t'enseigneront tous leurs trucs. Il savait ce que savent les beatniks et les grands joueurs, fils. Apprends à ne rien faire avec ta tête et ton corps et tout se fera naturellement. Je sais que tu comprends pas encore. Je connais ce regard aux yeux écarquillés. Je sais trop bien ce que ça signifie, fils. Peu importe. Tu verras, Jim. Je sais ce que je dis. Je te le prédis dès maintenant, mon petit monsieur. Tu seras un grand joueur de tennis. J'ai failli l'être. Toi, tu le seras vraiment, pour de bon. Je sais que je t'ai pas encore appris à jouer. Je sais que c'est ta première fois, Jim. Bon Dieu, détends-toi, je sais. Ça change rien à mon intuition. Tu me feras de l'ombre et tu me surpasseras. Aujourd'hui, on commence et d'ici quelques années, je le sais trop bien, tu pourras me battre. Et le jour où tu me battras pour la première fois, peut-être que je pleurerai. Ce seront des larmes de fierté altruiste, la terrible joie d'un père surpassé. Je le sens, Jim, ici même, sur ce gravier brûlant, quand je te regarde. Dans tes yeux, je vois que tu sais évaluer un angle, tu as un sens inné du spin. Je vois comment tu places ton corps d'enfant trop grand et apparemment maladroit sur une chaise, toujours dans la position la plus efficace par rapport à l'assiette, la cuillère, la meuleuse, la reliure d'un gros livre. Tu le fais inconsciemment. Tu t'en rends pas compte, mais j'observe de très près. Tu peux en être sûr, fils. Tu seras de la poésie en action, Jim. Par ta taille, ta posture, tout, parce que la posture ne sera pas un problème pour toi. Tu as un vrai potentiel. Écoute-moi pour une fois. Le truc, c'est de transcender cette tête trop grosse, fiston. Tu t'en accommodes très bien quand t'es assis. Apprends à t'en accommoder en bougeant. Apprends à vivre dans ton corps. Ici, c'est le garage commun, fils. Et ça, là, c'est notre porte de garage. Je sais que tu le sais. Je sais que tu l'as déjà regardé souvent. Maintenant, faut la voir, Jim. La voir comme un corps. La poignée terne, le loquet qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, les petits insectes piégés par la peinture et qui forment encore de minuscules reliefs, les craquelures faites par le soleil implacable. On ne sait plus bien quelle était la couleur d'origine. Les carrés concaves incrustés, leur nombre, leur disposition sur les bords, mettons que ce soit de la décoration. Mais compte-les quand même, ces carrés. Prouve-moi que tu traites cette porte comme une dame, fils. Tourne le loquet d'une seule main dans le sens des aiguilles d'une montre et tire. Peut-être un peu plus fort, Jim. Encore un peu plus fort que ça. Laisse-moi te montrer. Voilà comment elle veut qu'on fasse, Jim. Regarde, Jim, c'est ici qu'on gare cette Mercury Montclair 1956 que tu connais si bien. Cette Montclair pèse 1,8 tonnes, c'est comme ça. 8 cylindres, pare-brise incliné, aileron aérodynamique, vitesse maximale sur route plate 150 km/h. La première fois que je l'ai vue, j'ai dit au vendeur que cette Montclair était rouge lèvres mordues. C'est une machine, Jim. Elle fera ce pour quoi elle est conçue et le fera parfaitement, mais seulement si elle est stimulée par quelqu'un qui sait donner la peine d'apprendre ses trucs et ses coutures, comme un corps. Le stimulateur de cette voiture doit la connaître, Jim, la sentir, l'habiter au-delà de l'habitacle. C'est un objet, Jim, un corps, mais te laisse pas avoir par son silence, là, maintenant. Elle réagira. Si on fait ce qu'il faut, avec art et attention, c'est un corps et elle répondra par un ronron bien huilé quand je lui aurai fourni son huile. Mais attention, elle n'accorde ses 150 faveurs mercuriennes qu'au conducteur qui la traite comme son corps à lui, qui sent son grand corps d'acier à elle de l'intérieur, qui sent en douceur furtivement le plastique granuleux du levier de vitesse à côté du volant, qui le sent comme il ressent la peau. La chair, le muscle, les tendons et les os enveloppés d'un réseau de nerfs gris, de sa propre main nourrie de sang, qui sent pareillement le plastique, le métal, la collerette, les dents, les pistons, le caoutchouc, l'arbre à cames de la Montclair, nourri d'essence ambre quand il passe une vitesse. Le rouge charnel d'une lèvre mordue qui file à plus de 130 dans de la soie, Jim. Gloire à notre connaissance des corps, au tennis de haut niveau sur la route de la vie. Ah oh.
Merci à Clara Chamalier, François, Pierre-François Garel. Roméo Castellucci, qu'est-ce qui vous intéresse avec David Foster Wallace, qui est un auteur qui lui-même s'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses?
Wallace, ça a été un découvert incroyable. Ça a été quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Ça représente probablement l'aspect plus intéressant de ce qu'on appelle la contemporanéité. Mon imagination, mon intérêt a été toujours plutôt vers des choses anciennes. Je pense d'avoir une mentalité vieille et ancienne. Je suis intéressé pour la plupart pour des choses oubliées, des choses recouvertes de poussière, des choses rhétoriques, etc. C'est comme ça, c'est un forma mentis. Donc moi, j'ai toujours considéré les choses du passé. Par contre, quand j'ai découvert Wallace, j'ai découvert une possibilité infinie de reconsidérer le temps actuel. Je pense que c'est l'unique auteur qui a été capable de considérer la puissance de la banalité de notre jour. Ça, c'était juste un exemple. Comment la porte d'un garage, ça peut être tellement digne de considération, comme un sujet, comme pour une tragédie, donc on dirait. Donc, c'est vraiment tout est une question de vie ou de mort chez lui. Même la banalité, les nuits, toute la condition humaine contemporaine qui est normalement plongée dans un temps mort, non? Et je pense qu'il y a une dignité, une capacité de reconsidérer et de libérer un certain absolutisme de la réalité. Donc il est, comment dire, quelqu'un qui est capable de reconsidérer le fait d'avoir un corps parmi des autres corps. Le destin d'avoir un corps. Donc, je pense que il y a une puissance pour moi inévitable, indépassable chez lui. Je pense vraiment qu'il a marqué une époque. Malheureusement, il est disparu, mais il a laissé un vide énorme pour moi, vraiment énorme.
À la lecture du premier texte sur l'emploi des amateurs au théâtre, oui. Sur la question de la distance avec le réalisme, bien sûr, pensez à nombre de vos spectacles, Roméo Castellucci, qu'ils soient ou non d'ailleurs en accord avec cette idée. J'ai pensé à Purgatorio ou à certains passages de Go Down Moses ou de sur le concept du visage du Fils de Dieu, qui proposait une sorte d'hyper-réalisme quasi cinématographique, mais dans une acception qui pourrait être celle du Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, enfin des gestes du quotidien, la répétition, mais aussi, j'ai pu penser à The Four Seasons Restaurant ou l'Oresti, qui sont à l'inverse dans un jeu très codifié ou hiératique ou très marqué, comme une forme de mise à distance. L'emploi des amateurs aussi est une chose récurrente dans votre travail. Alors, est-ce que vous êtes plutôt Brecht ou Bresson, vous?
Moi, je suis fasciné, j'étais toujours fasciné par Bresson, évidemment. Parce que justement, il y a une référence dans le livre Infinite Jest, il y a toute une histoire d'un film, d'un cartouche, justement, il s'appelle une cartouche, un film qui est extrêmement dangereux parce que qui, par hasard, tombe et entre dans une pièce où il y a la projection du film, il va à mourir. Donc, on peut pas. Une fois qu'on regarde on commence à regarder le film, c'est détaché. Donc, le spectateur meurt normalement de faim. Parce qu'il n'est pas capable de. Et je trouve que c'est une invention extraordinaire. Le directeur de ce film évoque la possibilité de la chose la meilleure, c'est de travailler avec des amateurs, parce que justement le spectateur est concentré sur l'idée et sur les vrais sujets, et la capacité de l'acteur est vécue comme un piège dangereux. Donc il faut pas y croire, parce qu'il faut être concentré sur les sujets plus importants, qui est normalement la forme. Et justement, Wallace évoque Bresson. Et donc voilà, ça c'était intéressant peut-être d'évoquer cette partie du livre, parce qu'effectivement c'est une mentalité que moi parfois j'ai. Je dois dire que la demi-comédie, sul concetto di volto, a été, j'étais influencé beaucoup par Wallace. Je pense que sans la lecture de Wallace, j'aurais fait autre chose, je pense. Voilà.
Mais du coup, l'autre passage sur Brando, qui est très drôle et en même temps très fin, parce qu'il y a cette idée de prendre l'acteur pour modèle afin de devenir un champion de tennis. Bon, mais il se dit aussi dans ce passage des choses qui, là encore, résonnent avec certaines de vos préoccupations, comme le fait de tendre vers l'animalité, vers l'animal, pour atteindre la poésie. La place des animaux est pour vous très importante. J'ai lu quelque part que vous envisagez de finir votre vie seul et entouré d'animaux.
Oui, absolument, absolument. Moi, si, c'est mon but. Je pense que oui, c'est, j'aimerais bien d'être un berger. D'ailleurs, je le vois presque tous les jours quand je suis à la maison. Devant moi, normalement, il y a toujours un troupeau. Et donc, je pense que c'est un rêve même, un privilège absolu. Donc, oui, je pense que à côté des animaux, on a le sentiment d'être vivant, voilà. Et il n'y a pas la nécessité de parler, par exemple. Et donc, moi, j'ai toujours une mal à l'aise en rapport à la parole, malgré le fait que c'est l'unique chose qu'on a pour rester ensemble ce matin, par exemple. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un rapport avec les animaux très profond et spirituel, sans aucune intention, il faut dire. On peut pas être menteur face à un animal, je pense, parce qu'il est capable de nous regarder profondément. Donc je crois beaucoup au regard de l'animal. C'est plutôt lui qui regarde nous, qui regarde moi, profondément dans les yeux, je pense. Il est capable de me mettre à nous, beaucoup plus qu'un homme. Et donc, voilà. Et il y a aussi un destin commun, je pense, rapport aussi à la douleur. Mais par contre, l'animal, c'est aussi, de l'autre côté, un questionnement continu dans le théâtre, je pense, parce que on est là, on fait du théâtre justement parce que l'animal est disparu. Donc il y a la naissance de la tragédie grecque est basée sur la disparition de l'animal.
Parce qu'avant il y avait le sacrifice.
Bien évidemment, donc
les animaux.
Oui, le sacrifice est devenu quelque chose de dépassé au niveau culturel, est entré en crise. Et au lieu de l'animal, on a eu une autre forme de présence, qu'il s'agit en tout cas d'une présence, et de quelque chose qui doit être percé, traversé. Et le substitut de l'animal, c'est justement l'acteur. Et donc l'acteur est toujours l'ombre d'un animal, de quelque part. Il y a toujours dans lui les cris de l'animal, comme justement le nom de la tragédie évoque. Donc il y a nécessairement, même si on ne le considère pas, on le connaît pas, mais il y a toujours un rapport avec la disparition de l'animal. Et je pense que parfois l'animal Il revient, il est appelé à nouveau sur la scène, mais en ce cas-là, il s'agit d'un revenant, littéralement. Il vient sur sa place à prendre son... comment dire, il ramène l'être, je veux dire, et l'être sur un, le pur être sur un plateau, une espèce de menace, je pense, parce que c'est quelque chose qui est capable de percer les tissus de la représentation à travers un petit collapse qui est la présence d'un être. Et, par contre, chaque spectacle est évidemment quelque chose qui est éloigné de l'existence, non? C'est quelque chose qui est un produit, quelque chose qui a été conçu, fait avec des artifices, avec des techniques. Et qui, c'est nécessairement quelque chose qui n'est pas, il ne représente pas la vie, mais qui est à côté de la vie. C'est quelque chose qui parle de la vie. Et c'est nécessairement, dans un certain niveau, antibiotique. Antibiographique, mais plutôt antibiotique. La tragédie grecque, l'esthétique théâtrale de la dramaturgie occidentale est basée sur un certain pessimisme anthropologique. Il y a toujours une crise, surtout au niveau du langage, je pense. Donc, je pense que ramener un animal sur scène est plein de signifiés qui rebondissent comme dans un prisme. Donc c'est un problème, c'est infiniment problématique. Au-delà de la symbologie de tel ou tel animal, mais je pense que le fait d'avoir quelqu'un qui est totalement en dehors de la fiction, totalement en dehors du contrôle, totalement en dehors de l'ordre, il ramène les désordres, les chaos. Il est capable de suspendre aussi la capacité du langage de nommer les choses, etc., etc. C'est un élément qui est, pour moi, fondamental. Même s'il n'y a aucun animal sur scène, il y a toujours une référence à l'animal, toujours. Évidemment. Même on a évoqué la Divine Comédie ou sous concetto di volto, il y a toujours une qualité animale de l'acteur, parfois aussi littéralement comme l'homme qui est pas capable de retenir les excréments, par exemple. Il y a une référence à ça, où le fils sacrifié, entre guillemets, par son père, c'est une idée de comment dire, d'un animal sacrifié dans les boucs. On peut penser à Abraham et Isaac, comme d'ailleurs aussi dans le texte de Wallace, il y a. Et dans toute la littérature américaine, à vrai dire, il y a toujours une référence au sacrifice de l'Ancien Testament. Donc voilà. Donc c'est la question de l'animal, c'est pas un argument. C'est la substance même du théâtre, je pense, du fait que le théâtre c'est un acte de présence. Mise en cause, voilà, par l'animal.
Alors, ce qui est aussi étonnant dans ce passage que vous avez choisi, Roméo Castellucci, c'est qu'il y a la question de l'animal, mais il y a aussi, avec la Moncler 8 cylindres, la figure de la machine qui est pure fonction et que vous opposez justement à l'animal comme être pur. Et la machine, les machines, il y en a aussi beaucoup dans votre travail.
Oui, c'est vrai. C'est une constatation que je fais. Oui, c'est vrai, mais probablement parce que c'est, comment dire, l'animal et la machine sont les deux comme les extrémités d'un pendulum dans lequel est pris, capturé, je dirais, figé l'acteur qui est les deux choses en même temps. Donc, l'acteur est la synthèse paradoxale de l'animal et de la machine. D'un côté, il est d'abord son corps, la forme de son corps, le vécu de son corps. Il semble sème, le corps signe, c'est tout qu'on présente, qu'on les poils, comment il tourne le cou, tout ça, c'est le corps, il semble. Mais c'est un corps qui a aussi une pure fonction. Il est appelé pour faire des choses. En ce cas-là, il devient une machine vidée, non? Une machine qui sort de l'esprit. Et donc, avoir d'un côté sur le plateau des machines et des animaux, c'est pour, former un cadre, non? Qui est plutôt une évocation à ce qu'il y a des inhumaines. Je pense que cet appel à l'antibiotique, à l'inhumaine, je pense que c'est et à l'inactualité même, c'est l'unique façon de rappeler l'humaine. Donc il faut faire un pas, il faut écarter l'humaine pour pouvoir les voir, peut-être, non? Pour pouvoir les considérer, pour pouvoir considérer, je dirais, la fragilité de l'être humain. Et la leçon de la tragédie grecque, c'est une leçon dure, très dure, parce qu'elle a imposé, je dirais, à nous cette voie de douleur. Ce n'est pas un choix à moi, même le mystère du mal dans l'art, il n'y a pas tellement de bien dans l'art. Il y a toujours cette rivière privilégiée, fleuve privilégié qui est le fleuve du mal. C'est un fait. Donc, il faut, mais par contre, il faut se souvenir de ça. Et je pense que c'est à cause de cet appel à l'inhumanité. Donc on est ici, surtout à l'Eurystie. L'Eurystie, c'est un chef-d'œuvre de la littérature, de l'imagination humaine, de l'humanité entière, et c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable, c'est inacceptable, moralement inacceptable. Au niveau éthique, c'est totalement inacceptable. Mais alors, pourquoi on est fasciné par cette histoire? Pourquoi on reconnaît à tout ce mal une beauté absolue? Ça, c'est une interrogation. Et peut-être qu'il doit rester une interrogation, une interrogative.
D'autres interrogations, Roméo Castellucci, en avançant dans cette scène imaginaire à l'Odéon et sur France Culture avec Giorgio Colli, qui est un philosophe et helléniste italien, qui est né en 1917, mort en 1979. Il a notamment assuré l'édition, la traduction de l'Organon d'Aristote. Et puis l'édition italienne, allemande, française des œuvres complètes de Nietzsche avec Mazzino Montinari. La sagesse grecque, ça a été le grand œuvre de la fin de sa vie, une édition et traduction du corpus des pré-socratiques qui devait faire 11 volumes mais qui a été interrompu par la mort de Cole. Il en a publié 3 tomes. Et puis en 1974, il écrit Après Nietzsche, qui est publié en France aux éditions de l'Éclat, dans une traduction de Pascal Gabellone, et on va en entendre un extrait dans un instant, et puis deux courts extraits de la sagesse grecque. Vous l'avez dit, la lecture des textes philosophiques vous accompagne depuis longtemps. On pourra noter aussi que vous nous proposez aujourd'hui des textes d'herméneutique, c'est-à-dire des textes qui étudient d'autres textes. L'herméneutique, c'est d'abord une interprétation du divin, c'est Hermès hein, qui est présent dans l'Orestie, c'est le messager des dieux, il est là pour donner le message, mais l'herméneutique elle s'intéresse à tous les champs de la pensée. Est-ce que votre travail artistique, est-ce que vous le considérez aussi comme une herméneutique? Est-ce que soit avec Eschyle, avec Sophocle, avec Hölderlin, il s'agit de cela aussi pour vous?
Bah oui, je pense qu'il faut changer les noms, plutôt qu'herméneutique, il s'agit de la dramaturgie. La dramaturgie, c'est exactement ça. C'est de trouver une clé pour pénétrer dans un corps extérieur. Donc, il s'agit d'un envahissement de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Et je pense qu'il y a toujours une manœuvre dans la dramaturgie. La manœuvre, c'est d'aborder normalement. Il n'y a pas un rapport frontal avec un objet, justement parce qu'il faut oublier l'objet. La dramaturgie que j'ai respect, c'est plutôt quelque chose qui est capable d'oublier l'objet pour le retrouver seulement à côté ou après. Je pense que entrer directement dans un texte, par exemple, je pense que je parle toujours au niveau personnel. C'est pas bien parce que justement, j'ai besoin d'un parcours parallèle au parasite pour retrouver seulement la même chose, comment dire, déraillée. Sur un autre plan, un autre monde, probablement, dans un autre contexte. Et donc, l'herméneutique que je pratique, c'est plutôt une perversion, peut-être, des signes. Il faut, comment dire, se mettre dans la place d'écrire l'orestie, par exemple, non? D'inventer, de réinventer, de réécrire à nouveau. Prendre la place d'Eschyle, ça c'est. Je pense que, évidemment, c'est un acte arbitraire. Ça c'est clair. On n'est pas ici pour donner des illustrations ou pour faire de la décoration, je pense. Je pense qu'il faut réveiller la forme. Et la dramaturgie herméneutique, ça peut être une voie. Privilégié. Avec un bref exemple, par exemple, pour de cette technique, c'est pour l'orestie, on entend des mots qui sont de Lewis Carroll, par exemple. Donc il y a toujours quelque chose qui ouvre ou qui coupe, qui casse quelque chose.
On va d'abord écouter un premier extrait de Giorgio Colli, du texte du livre Après Nietzsche. C'est Clara Chamalier qu'on écoute.
Doctrine de l'instant. La magie du regard dans l'expérience amoureuse, sa bouleversante instantanéité, abîme qui s'ouvre et se referme, est un phénomène purement cognitif, se produisant toutefois au seuil de ce qui n'est plus représentation. La secousse libératoire, exaltante du regard, a été célébrée par Platon, par Goethe, par Wagner, dans des contextes qui dépassent la sphère strictement érotique. La révélation de l'instant secoue le cœur de l'homme. Mais ce n'est que le dernier moment, l'émergence au sein de l'individuation et dans la structure corporelle de l'homme, d'une connaissance anomale. L'instant comme intuition précède la secousse. Dans le flux du temps se lève soudain un instant qui n'est en aucun temps, comme le dit improprement Platon, mais qui, à la rigueur, donne commencement au temps, est déjà dans le temps, tout en faisant allusion à quelque chose qui, n'étant pas dans le temps, le répercute et l'exprime. Dans l'éclat du regard, ces trois moments se confondent et seule l'analyse illusoire de la pensée est à même de les distinguer. Par-delà l'expérience érotique, Héraclite nous en donne l'énonciation générale « La foudre gouverne toute chose ». La doctrine de l'instantanéité est par conséquent une indication optimiste. L'instant appartient au tissu de la représentation. Il fait allusion au point où celui-ci est déchiré, à ce qui donne un sens à tous les tourments qui précèdent, selon l'expression de Platon, à ce qui rachète l'année entière, comme le dit Goethe. C'est dans notre vie que nous pouvons jouir de ce qui précède notre vie, de ce qui est au-delà de notre vie, que nous pouvons le saisir. Là où l'instant est célébré, est présente, de Parménide à Nietzsche, la connaissance mystérique. L'instant témoigne de ce qui n'appartient pas à la représentation, à l'apparence.
Avant d'écouter deux courts textes de Colli, j'avais envie qu'on s'arrête un tout petit instant sur celui-ci, Roméo Castellucci, sur le fait que si Colli s'intéresse à la révélation de l'instant à partir de l'expérience amoureuse, est-ce qu'on peut transposer cette notion dans le cadre de la représentation théâtrale dans laquelle la révélation de l'instant secoue le cœur de l'homme?
Je pense que oui. justement parce qu'on donne une importance extraordinaire au fait de regarder. Et regarder, ce n'est pas... je veux dire, regarder, c'est dépasser l'objet. Donc, on n'est pas face à un objet, entendu comme cette bouteille, par exemple, mais c'est plutôt toujours le regard même qui devient l'objet de contemplation. L'idée de Colli, je pense, ça arrive dans l'expérience de mystère, de l'Eusis, peut-être, non? Il parle beaucoup de l'Eusis, de la Grèce pré-tragique. Donc, il y avait l'expérience de la vision, théâtron, ça veut dire aussi le lieu du regard. Et donc, il y a une conception du regard totalement différente en rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, non? Qui est plutôt accidental. Il y avait un mot extraordinaire dans le vocabulaire de la mystère de l'Eusis, qui est épopteia. Épopteia, c'est le regard qui est capable de former la chose. Donc, c'est vraiment la perspective inversée. Tout ça signifie le rôle fondamental du sujet, et donc du spectateur. Le spectateur, c'est le spectateur qui est capable de former la chose, parce que probablement la chose est lui-même, il est face à lui. Et évidemment, c'est quelque chose qui lui implique totalement, donc il s'agit dans un certain niveau d'une épiphanie individuelle, et qui est encore, au-delà ou bien avant de la sphère du langage. Donc on est frappé, on n'a pas encore les mots pour pouvoir nommer l'émotion qui nous arrive. C'est quelque chose qui est capable justement de percer les tissus de la représentation. Peut-être que ça c'est le paradoxe, mais c'est la référence au mystère, c'est exactement ça. Le fait de la nécessité de percer, de faire des trous dans la représentation. À travers les trous, on voit quelqu'un d'inconnu, donc nous-mêmes. Et je pense que ça, c'est une... Il y a une référence à tout ça. Et Colli a été obsédé par la sagesse grecque, donc tout ce qui est arrivé avant de la philosophie. Donc il y avait un rapport peut-être plus obscur avec les réalités, mais avec une adhérence au corps et à l'obscurité du corps.
Ce qui est étonnant aussi, on peut noter que ce que vous dites sur le regard qui forme l'objet, c'est qu'on est dans l'Eleusis, on est dans la Grèce avant la Grèce antique, et c'est ce que nous dit la physique quantique, qui nous dit que ça n'existe que si on le regarde, l'expérience n'est valable que si, s'il y a quelqu'un pour y assister. Bon, on retourne vers l'Eleusis avec Giorgio Colli, Clara Chabanier, suivi de Pierre-François Garel.
Donc c'est un extrait de la Sagesse grecque, la traduction française est de Marie-Josée Tramuta. Eleusis. De moi, du moins, il n'existe et il n'y aura certainement jamais aucun écrit sur pareil sujet. Car une telle connaissance ne saurait être communiquée par des mots comme le sont les autres, mais c'est après une longue fréquentation qui s'attache précisément à cet objet, quand on a vécu avec lui, qu'instantanément, telle la lumière qui se dégage d'une flamme hésitante, une fois jaillie de l'âme, elle s'alimentera désormais d'elle-même.
Énigme. Dans l'énigme d'Homère, l'entrelac des mots se présente sous un aspect fatal. C'est la raison abstraite qui les dispose sous forme d'antithèses croisées. Deux couples de déterminations contradictoires sont associés de façon inverse à celle que l'on pourrait attendre. Cela révèle toute la portée de l'énigme en tant que phénomène archétype de la sagesse grecque. Derrière cette formulation se dissimule l'origine grecque reculée de la dialectique, destinée à s'épanouir par un lien de continuité, selon la structure agonistique comme en celle de sa terminologie même, à partir de la sphère énigmatique. Mais j'ai parlé de cela trop longuement pour m'attarder encore sur le sujet. Celui qui ne résout pas l'énigme est trompé. Le sage est celui qui ne se laisse pas tromper. L'action de l'énigme est de tromper et de tuer moyennant la tromperie. Cela, Héraclite nous l'enseigne. Au fond, le sage est un guerrier qui sait se défendre. L'écho de cette vision résonne encore dans un admirable fragment de Gorgias à la fin de l'âge des sages. La tragédie opère une tromperie par laquelle celui qui trompe est plus juste que celui qui ne trompe pas, et celui qui est trompé est plus sage que celui qui n'est pas trompé. Le paradoxe de la rhétorique est revêtu d'une forme énigmatique qui renvoie à l'énigme.
Alors, l'énigme... Beaucoup de gens qui parlent de votre travail, Roméo Castellucci, en disant souvent qu'il est énigmatique, mais au-delà de ça, la fonction de l'énigme, pour vous, quelle est-elle ?
Oui, je pense que Cole y a tout dit. Je pense que, oui, il y a une dimension énigmatique, oui, mais l'énigme, ce n'est pas quelque chose de bizarre, non ? Ce n'est pas quelque chose... De surréel. C'est un nœud linguistique, mais qui est totalement logique. On sait qu'il y a une réponse, une chose qui peut libérer cette phrase qui a un nœud qui est jeté contre nous. C'est un piège, justement. Et donc, mais c'est un piège qui montre à nous, comment dire, les cornes du langage. Donc, il y a toujours une double possibilité. Il faut choisir une corne. Et ça, c'est la piège. Et donc, et ça, c'est déjà une démonstration de comment les langages fonctionnent. L'énigme, c'est un problème. D'ailleurs, un autre nom pour l'énigme chez les Grecs, c'est problema. Le problema, c'est une sorte de montagne, donc un obstacle. Ça veut dire obstacle. Et donc, donne à nous déjà ce mot, problème, déjà un aspect du langage entendu comme difficulté. Et je pense que ça, c'est aussi l'aspect que la tragédie a souligné. On le verra peut-être avec un autre philosophe qui est Franz Rosenzweig. Mais la sphère du langage est un piège, est un champ de bataille. Et peut-être que l'énigme, c'est la forme la plus propre aussi de l'art. L'énigme pose une question et la réponse est jamais digne de la question. Chaque réponse sera jamais si beau. Comme autant que la question. Et je pense que devant les grandes œuvres d'art, on a toujours un énigme. Pensez-vous par exemple à Hamlet. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est Hamlet ? Personne ne peut savoir. Donner une réponse, ça veut dire tout est la question peut-être. Tout est Hamlet. Tomber dans un objet. Et donc, je pense que ce n'est pas une question de style, encore une fois, c'est une question de nature de théâtre.
Dans le programme du Festival d'automne, vous dites que la plus grande énigme, ce n'est pas la mort, c'est la vie.
Ce n'est pas mon avis, c'est l'avis de Sophocle, quand il dit que la meilleure condition de l'homme est d'être né. Donc la naissance, c'est le fait d'être tombé sur cette partie de terre, ça c'est le problème. Et aussi, non.
Vous êtes d'accord parce que je ne distingue pas entre Sophocle et vous, c'est pour ça.
Je suis totalement. Non, moi je suis totalement d'accord, malgré le fait que j'ai beaucoup de chance. Je suis un homme privilégié, donc de quelque part je dois payer quelque part cet privilège. Peut-être que nous tous, on a des privilégiés en ce monde, mais moi-même, je suis tombé dans ces corps, je suis tombé dans ces noms Romeo Castellucci, je n'ai jamais choisi ce nom. On est tombé, on est des précipices, comme des projectiles tombés du ciel. Et on est, moi, j'habite cette costume de peau. Le fait d'être né, le mystère de l'incarnation, avant d'appartenir à Jésus, appartient à nous tous, je pense. C'est un mystère, selon la vision du tragique. Selon la, oui, je pense que moi, personnellement, j'ai une vision tragique de l'art et probablement aussi de la vie. Mais ça veut dire pas, ce n'est pas du tout quelque chose de triste hein, ou de mauvais. Je pense qu'il y a une beauté absolue dans cette conception qui est, comme vous voyez, très ancienne. Il y a aussi quelque chose de tragique, même dans la littérature de Wallace, je pense, malgré le fait qu'on rit beaucoup.
Vous évoquiez Franz Rosenzweig, on va le retrouver maintenant, philosophe, théologien juif allemand qui est né en 1886, mort en 1929, et il a songé à se convertir au christianisme, et c'est justement à ce moment-là qu'il marque son retour au judaïsme.
Voilà, ça
va marquer son œuvre, il a influencé quantité d'autres philosophes, Emmanuel Lévinas, Martin Heidegger, alors de façon problématique, mais... On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais Gershon Scholem ou Walter Benjamin ont tous dit l'importance de Rosenzweig. Il a rédigé « L'étoile de la rédemption » durant la Première Guerre mondiale. C'est un extrait de ce livre que vous avez choisi, un livre qui est édité en France aux éditions du Seuil, une traduction d'Alexandre Dersansky et Jean-Louis Schlegel. « Dieu, le monde, l'homme », ils sont au centre de la pensée de Rosenzweig, mais ces trois éléments et ces trois notions, il les met en relation avec un autre triangle, la création, la révélation, la rédemption. Et ce sont ces deux triangles qui, évidemment, rappellent l'étoile de David qui figure sur la couverture de cette édition. Vous préférez qu'on l'entende d'abord et qu'on en parle ensuite, Romeo Castellucci? Alors, on écoute la lecture à présent de cet extrait de l'étoile de la rédemption.
Le héros tragique, Gilgamesh. Dès avant le défi tragique de Samson et de Saul, le Proche-Orient le plus ancien a inventé le prototype du héros tragique avec la figure qui se trouve à la limite du divin et de l'humain, avec Gilgamesh. La courbe de vie de Gilgamesh passe par trois points fixes. Le début est l'éveil du soi humain dans la rencontre avec Eros. Suit la ligne droite de la courbe, riche en hauts faits, qui se brise brutalement dans l'épisode ultime et décisif, la rencontre avec Thanatos. Cette dernière est concrétisée avec force dans la mesure où il ne s'agit pas d'abord et immédiatement de la mort propre qui attend le héros, mais de la mort de l'ami. Seulement, avec elle, il éprouve la crainte de la mort en général. Les mots lui manquent dans cette rencontre. Il ne peut ni crier ni se taire, mais il ne se soumet pas davantage. Toute son existence consiste à passer avec succès cette rencontre. Sa vie reçoit la mort, sa propre mort, entrevue dans la mort de l'ami, comme seul contenu. Il lui est égal que la mort finisse par le prendre aussi, lui-même. L'essentiel est déjà derrière lui. La mort... Sa propre mort est devenue l'événement qui domine sa vie. Lui-même est entré dans la sphère où le monde, avec son alternance de cris et de silence, devient étranger à l'homme. Il est entré dans la sphère du mutisme pur et souverain, la sphère du soi. La tragédie attique. Car voilà le signe distinctif du soi, le sceau de sa grandeur comme le stigmate de sa faiblesse. Il se tait. Le héros tragique n'a qu'un langage qui lui corresponde parfaitement, le silence, précisément. Il en est ainsi dès le début. Le tragique s'est forgé pour cette raison, justement, la forme esthétique du drame qui permet de représenter le silence. Dans la poésie narrative, le silence est la règle, alors que la poésie dramatique ne connaît que la parole. Et c'est seulement alors que le silence devient éloquent. En se taisant, le héros rompt les ponts qui le relient à Dieu et au monde, et il s'arrache au paysage de la personnalité qui, par la parole, trace ses limites et s'individualise face à d'autres pour se hisser dans la solitude glaciale du soi. Car le soi ne sait rien en dehors de soi. Il est tout simplement solitaire. Comment manifesterait-il en soi-même sa solitude, ce défi rigide, autrement qu'en se taisant? Et c'est bien ce qu'il fait dans les tragédies d'Eschyle, comme le remarquèrent déjà les contemporains. L'héroïque est muet. Si les grands silences des personnages d'Eschyle, un acte durant, ne se trouvent plus chez ses successeurs, ce gain en naturel se paie d'une plus grande perte en force tragique. Car les choses ne sont aucunement telles que les héros muets d'Eschyle trouveraient chez Sophocle et Euripide le langage de leur soi tragique. Ils n'apprennent pas à parler, ils n'apprennent qu'à discuter. C'est alors cet art de disputer dans le dialogue dramatique qui envahit tout et qui jette aujourd'hui sur nous son souffle désespérément glacial. Dans d'innombrables tours et détours, il expose le contenu de la situation tragique de telle sorte qu'on la comprenne, dérobant ainsi au regard ce qui est proprement tragique. Le soi qui lance son défi au-delà de toutes les situations, jusqu'à ce qu'un de ces monologues lyriques auxquels la présence du cœur ne cesse de donner occasion remette au centre le tragique. L'importance énorme de ces parties lyriques et musicales dans l'économie de l'ensemble dramatique repose précisément sur le fait que les Athéniens ne trouvèrent pas dans le registre proprement dramatique, dans le dialogue, la forme pour exprimer l'héroïque et le tragique. Car l'héroïque est volonté et le dialogue attique est, pour reprendre l'expression du plus ancien théoricien, Aristote lui-même, dianoétique. Débat relevant de l'entendement.
Le silence du héros tragique, qui a été très vite trahi après Eschyle, mais se paye, Rosenzweig le dit, par la perte de la force tragique, justement. La parole veut expliquer, elle nous éloigne de l'essence même du tragique. Vous êtes en accord sur ce point avec Rosenzweig?
Ben, je pense que avec Walter Benjamin, Rosenzweig, avec, dans quelques lignes, il a formulé la théorie du tragique la plus impressionnante, je pense. Et dans quelques traits, il a été capable de toucher profondément, je pense, le destin, la nature du tragique. Et donc, oui, je pense qu'il a dit. Il a touché des choses impressionnantes. Il a découvert le fait que, oui, l'entropie, je dirais, du langage du tragique, donc le fait que la perte, il y a quelque chose qui coule en continu. On ne peut pas enfermer la parole du tragique dans un argument, par exemple, non, dans un sujet. Justement, Rosenzweig dit que l'héros est condamné, d'une certaine façon, à parler, et la parole, ça devient de plus en plus produit le silence. Donc, c'est une attitude paradoxale. Donc, plus l'héros il parle, et plus il produit du silence. Il produit le silence. C'est un produit. C'est quelque chose qui doit être fait, et je dirais comme une plastique, comme une dimension. Il faut produire le silence. D'autre part, la tragédie, c'est toujours la tragédie de la parole. C'est le sang qui coule, ce n'est pas le sang des veines, mais c'est le sang de la langue. Donc on a vraiment à chaque fois une hémorragie du langage, je pense. Par contre, il faut le dire. Ça, c'est la chose la plus beau et indépassable. Les fondements, même, c'est basé sur cette contradiction intestine. Donc, il faut dire la puissance de ne pas le dire. C'est quelque chose comme ça. C'est même une forme de condamnation, si vous voulez. Et donc, c'est incroyable le fait que tout ça, ça arrive à travers des énigmes, à travers des choses qui sont là pour te tromper, comme Gorgia, on a évoqué Gorgia. Donc, il y a, c'est encore c'est un objet extrêmement complexe. Mais ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé, je pense. La tragédie grecque, ce n'est pas, comment dire, quelque chose d'archéologique. Pour moi, c'est une référence continue. Même quand je suis un lecteur, par exemple, ou quand je... C'est une mentalité, probablement. Mais peut-être que c'est une limite, parfois.
Mais le silence, il occupe une place importante dans votre travail, que ce soit... disons le deuxième acte de l'Orestie, même s'il y a du texte, il y en a fort peu pendant ce deuxième partie. La dernière séquence de Go Down Moses aussi, on en reparlera peut-être tout à l'heure. La première demi-heure de votre Oedipe tyran. Le silence, est-ce que c'est aussi une... ça peut être un horizon de votre travail, mais ça peut être aussi peut-être une forme de séduction aussi dangereuse, faire un théâtre de silence.
Ben oui, le silence absolu n'existe pas. Donc il faut toujours, comme selon la théorie de la tragédie, il faut produire le silence. Donc ce n'est pas simplement un manque de bruit ou de paroles. C'est d'abord une condition. Donc il faut préparer. Les silences, mais le silence c'est aussi la base de chaque langage. Et donc il y avait l'autre mot chez les Grecs, c'est sigé, c'est comment dire le silence abyssal sous lequel repose chaque langage. Et le silence original, le sigé, c'était aussi la substance des apparitions à Eleusis. Donc il y avait aucun mot. Parce qu'on est conscient, la conscience, ça devient égout. On est totalement concentré sur les regards, par exemple. Donc, regarder, ça devient un acte beaucoup plus pointu. Voilà. Donc, ce n'est pas un par exemple, parfois je me trouve dans la condition de chercher le silence à travers des bruits ou à travers aussi des mots. Le cas d'Oedipe der Tyran, ça c'est, on a aussi quelque chose à lire de Hölderlin. Mais ça c'est le cas dans lequel, à cause de la poésie, à cause du langage, on a la sensation d'être plongé dans le silence, qui n'est pas le silence acoustique. Il y a un autre silence qui passe à travers les paroles, qui résonne dans les paroles. On verra peut-être avec Hölderlin.
On finira avec lui tout à l'heure. Une autre chose qu'écrit Rosenzweig un peu plus loin dans ce même texte, il dit, en parlant du héros tragique, il aspire à la solitude de la disparition, car il n'existe pas de solitude supérieure à celle-ci. Aussi, le héros ne meurt-il pas au sens propre? Il parle de l'immortalité du héros tragique. Comment est-ce que vous entendez cela, vous, Romeo Castellucci?
L'immortalité, je ne sais pas, parce que ce n'est pas l'héros tragique, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un individu. Justement parce que la tragédie est quelque chose qui appartient à tout le monde. Donc c'est l'art civil, c'est un art qui est né dans la ville, donc idéalement pour des citoyennes. Il n'y a aucun sens de faire une tragédie dans la nature, par exemple, non? Et donc, il s'adresse à l'anonymat de chacun de nous. La grande puissance de la tragédie, je pense, et encore plus aujourd'hui, c'est l'anonymat. Donc, quelque chose qui est lancé. Et je pense que l'immortalité, moi, personnellement, je le vois dans une forme de multiplication. Il n'y a aucun côté métaphysique. Aucun. Il n'y a aucun mystique. Aucune dimension de salvation. Et donc, moi, je le vois dans cette unique dimension qui est la dispersion dans la ville, jeté dans la ville, jeté dans la salle, brûlé dans la salle.
Le silence, la question du sacré, du mystique. Vous avez évoqué tout à l'heure aussi la question de la souffrance, qui est aussi quand même un élément important du tragique, et de la solitude irréductible de l'être humain aussi. Alors certains, on évoquait Nietzsche tout à l'heure, se sont réjouis de la mort de Dieu, d'autres se consolent de la souffrance parce que Dieu existe. Ça me faisait penser à cette scène dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, dans laquelle Fritz Lang et Michel Piccoli discutent autour de la traduction justement et de la difficulté de la traduction d'un poème de Hölderlin. Et Fritz Lang affirme que Hölderlin a voulu dire que ce n'est plus la présence de Dieu, mais l'absence de Dieu qui rassure l'homme.
Oui, je pense que il y a toute une théologie du vide chez Hölderlin. Justement, Hölderlin a essayé de penser dans la manière de la tragédie grecque. La tragédie grecque, c'est le ciel vide. Plutôt que vide, vidé. Donc, la beauté chez Hölderlin et la possibilité pour l'être, c'est de vivre sous ce ciel qui est vidé, qui est un ciel qui est froid, bleu. Donc, il y a toute une beauté sur la manque. Et c'est l'unique possibilité, d'autre part, c'est la manque de Dieu, c'est le crépuscule de Dieu, la naissance de la tragédie. Est basée sur cette manque. D'autre part, Dieu, c'est celui qui manque par définition. Et l'art, c'est un tentative, pas de donner une réponse, mais de réfléchir et peut-être de prendre la place avec un autre vide. Mais je pense que c'est l'unique manière de concevoir l'idée même de la divinité, donc et on peut dire que pas seulement Dieu est disparu, mais aussi tout que lui concerne, comme par exemple les signifiés. Il n'y a aucun signifié, comme il n'y a aucun message, aucune réponse. Je pense que chez Hölderlin, il y a toujours, comme on dit, une tautologie de la forme, quelque chose qui brûle soi-même sans aucun besoin d'un au-delà d'un Dieu. Et il est là justement parce que il y a la splendeur de la solitude et du vide. Donc le langage chez Hölderlin, la prière, parce qu'il s'agit de prière dans certains moments, c'est à cause du fait qu'il y a une résonance avec un manque. Donc il y a la musique de la langue, ça prend la place du contenu, probablement. Et c'est pour ça que je termine, que dans certains niveaux, il y a toujours un combat contre les signifiés. Voilà, on est préoccupé par les signifiants, c'est tout qu'on a. Et on doit rester concentré sur la forme, qui est une discipline très, très sévère aussi, mais très beau. Mais il n'y a rien à dire. Voilà. Il y a, au-delà de tout, il y a le théâtre. Et il y a aussi Antonin Artaud, il parle du support. On est toujours face au support qui est le théâtre, la structure du théâtre, la loi du théâtre. Et le théâtre, c'est d'abord un plateau vide, ou plutôt vidé, comme le ciel de Hölderlin. Il a raison toujours le support. Au-delà de tout contenu possible, de tout signifié possible, il y a le théâtre, qui est une forme absolument tautologique. On est là pour le théâtre, pas pour un message qu'on jette dans le théâtre. C'est le feu central.
On finira dans peu de temps maintenant avec Hölderlin, mais avant de conclure cette scène imaginaire sur France Culture, au Théâtre de l'Odéon, on va remonter encore le cours du temps à la rencontre de Johann Jakob Bachofen, né en 1815, mort en 1887. C'était un juriste, philologue, sociologue suisse, théoricien du matriarcat. On en revient à la question des femmes. C'est justement un extrait de son livre, Le droit maternel, publié en 1861, que nous allons écouter. C'est Clara Chevalier qui va le lire dans la traduction d'Étienne Balibar. C'est publié à l'âge d'homme.
De tous les témoignages qui se rapportent à l'essence et à la structure interne du droit maternel, les plus clairs et les plus précieux dont nous disposions concernent le peuple lycien. Les Lyciens, raconte Hérodote, contrairement aux Grecs, ne donnaient pas à leurs enfants le nom de leur père, mais exclusivement celui de leur mère. Dans toute leur généalogie, ils mentionnaient invariablement les ancêtres maternels et jugeaient du statut social des enfants uniquement en fonction de celui de la mère. Nicolas Damasène complète ce témoignage en affirmant que seules les filles avaient le droit d'hériter. Il rattache cette norme au droit commun lycien, à cette loi non écrite qui, selon Socrate, procède de la divinité elle-même. Toutes ces attitudes sont des manifestations d'une seule conception fondamentale. Hérodote n'y voit rien d'autre qu'une aberration singulière par rapport aux coutumes grecques. On peut découvrir chez d'autres peuples des attitudes analogues. Au droit d'hériter, attribué aux seules filles par la loi lycienne, correspond le devoir de nourrir ses parents âgés, qui, selon Diodore, était imposé exclusivement aux filles dans les usages égyptiens. Une telle norme semble compléter la construction du système juridique lycien. Une assertion de Strabon relative aux Cantabres, chez qui les frères recevaient de leurs sœurs une élocation et une dot, met en évidence une conséquence encore plus extrême de la même vision fondamentale. Tous ces différents traits s'unissent en une pensée commune. Ils renferment donc un enseignement d'une portée tout à fait générale. Notre conviction se voit ainsi fondée. Le droit maternel n'appartient à aucun peuple en particulier, mais à un état de la culture. La nature humaine présente des constantes et des régularités. Ce qui conditionne l'extension du droit maternel, ce ne sont pas de simples proximités géographiques. Finalement, il est beaucoup plus important de comprendre l'unité interne d'une conception fondamentale que de noter des similitudes entre des manifestations singulières. Le témoignage de Polybe à propos des 100 familles nobles de Locre et Pisépire ajoute à cette série de considérations générales deux éléments supplémentaires qui leur sont intimement liés et dont nous vérifierons au cours de notre recherche l'exactitude et l'importance. Le droit maternel appartient à une période de civilisation plus reculée que le système du droit paternel. Il passe du plein épanouissement au déclin, dans la mesure même où ce dernier s'affirme victorieusement. C'est pourquoi les formes de vie gynécocratique apparaissent surtout chez les peuples qui s'opposent aux Grecs, à titre de race plus ancienne. Elles sont partie essentielle de cette civilisation originaire dont la marque propre est la souveraineté du principe maternel, tout comme celle de l'hellénisme est la domination du principe paternel. Dans les couches les plus profondes et les plus obscures de l'être humain, l'amour qui lie la mère au fruit de ses entrailles représente le point de lumière, l'unique clarté dans les ténèbres morales, l'unique joie dans une misère profonde. Observer des peuples vivant encore dans d'autres parties du monde nous redonne conscience de ce fait et replace dans une juste perspective la signification de ces traditions mythiques qui mentionnent ceux qui aiment leur père. Elles marquent un tournant d'importance dans l'histoire des mœurs humaines. La relation intime de l'enfant avec son père, Le sacrifice de l'enfant au profit de son géniteur exige un degré de développement moral bien supérieur à l'amour maternel. Cette force mystérieuse qui traverse indistinctement tous les êtres de la création terrestre. L'amour du père vient après. C'est plus tard qu'il manifeste sa force. La relation qui inaugure le processus civilisateur de l'humanité, qui manifeste toute vertu, qui donne forme à la part la plus noble de l'être, c'est la magie de la maternité. Dans une vie pleine de violence, la maternité s'accomplit comme le divin principe de l'amour, de l'accord, de la paix. En prenant soin du fruit de ses entrailles, la femme apprend plus tôt que l'homme à étendre son souci d'amour au-delà des limites de son propre moi, jusqu'à d'autres êtres. Toutes les capacités inventives de son esprit, elle les voue au maintien, à l'embellissement d'un être qui n'est pas elle. C'est d'elle que procède toute élévation des mœurs, toute bienveillance dans la vie, tout don de soi, toute sollicitude et toute déploration des morts. Multiples sont les expressions que cette idée a trouvées dans le mythe et dans l'histoire. C'est ainsi que les Crétois, pour exprimer un comble d'amour pour leur pays, invoquent leur matrie, leur Mutterland. C'est ainsi que le lien le plus intime unit ceux qui sont nés d'une même mère. C'est la relation fraternelle la plus vraie, la plus originelle, la seule. Secourir la mère, la défendre, la venger, voilà le devoir le plus sacré. De même, menacer la vie de sa mère est considéré comme un crime sans espoir d'expiation, même s'il est accompli au service de la paternité offensée. Cependant, l'amour qui procède du principe maternel n'est pas seulement plus intime, il est aussi de portée plus ample et plus générale. Tacite, qui se borne à signaler le rapport entre sœurs chez les Germains, en aura difficilement mesuré toute la portée. Il n'a guère saisi l'ampleur de sa confirmation historique. Le principe paternel est un principe de limitation. Le principe maternel, un principe d'universalité. Le premier se circonscrit dans un cercle étroit. Le second, tout comme la vie de la nature, ignore toute restriction. Du principe maternel est issue l'universelle fraternité de tous les hommes, dont avec l'essor de la paternité, la conscience et la connaissance déclinent. La famille fondée sur le droit paternel est fermée, comme un organisme individuel. En revanche, la famille fondée sur le droit maternel conserve ce caractère typique, universel, qui est à l'origine de tout développement et qui distingue la vie de la matière de celle supérieure de l'esprit. Image mortelle de Déméter, la terre mère, le ventre de toute femme, donne des frères et des sœurs à ceux qui sont nés d'une autre. Et la terre natale connaîtra seulement des frères et des sœurs jusqu'à l'avènement du principe paternel. L'unité de la masse alors se désagrège et l'indifférenciation sera vaincue par le principe de séparation.
Merci Clara Chabalier. Alors j'ai préféré qu'on entende effectivement, qu'on écoute cet extrait de avant de vous interroger au sujet de Bachofen, Romeo Castellucci. Vous avez, je crois, découvert ce livre au moment où vous travailliez sur l'Orestie, ce moment justement dans l'histoire mythologique où le patriarcat supplante le matriarcat.
Oui, j'ai découvert ce livre et pour moi c'était un choc. C'est un livre qui est comme un tsunami, qui a changé tout, même dans ma conception du théâtre, mais aussi sur la pensée que j'avais sur la Grèce. Donc, c'est un livre gigantesque, d'une beauté gigantesque, d'une importance gigantesque pour moi. Et pas seulement pour moi, parce que c'est apparemment un livre qui a beaucoup influencé Freud, Marx, Benjamin, etc., etc. Mais pas, c'est injustement, c'est pas connu, pas tellement connu, pas tellement publié, lu, etc. Et c'est d'abord d'une beauté extraordinaire. Et c'est une grande œuvre très complexe. C'est une récolte incroyable de données pour démontrer, entre guillemets, la supériorité de l'ancien droit maternel. Donc, il y a une fascination pour les côtés féminins de la conception du monde et du corps. Et on dirait contre, encore une fois, entre guillemets, les droits patriarcales. Oui, j'ai découvert dans ce livre, évidemment, le matriarcat Das Mutterrecht, tout un chapitre sur le resti, par exemple, où c'est comme un exemple où on voit qu'on dépasse l'ordre plus ancien lié à la mère et les droits paternels inaugurés à travers les gestes d'Oreste, un geste qui jusqu'à ce moment était considéré comme la blasphémie la plus totale. Donc à Eleusi, c'est lui qui comment dire, matricide, c'était totalement interdit au matricide l'entrée à Eleusi, même s'il s'agissait d'un empereur romain comme Néron, par exemple. Et donc il y avait vraiment une considération de la femme entendue comme puissance tellurique, puissance primitive, mais beaucoup plus proche au corps, non? Donc c'est plein de références, c'est d'une richesse incroyable. J'ai employé des années à le lire, à l'étudier, on va dire. Et donc voilà, le reste, c'est simplement un reflet. Peut-être qu'il faudrait beaucoup de temps pour analyser la naissance du droit, par exemple. Le reste, ça représente aussi la naissance du droit face à la chaîne de la revanche, non? Mais au rapport à ce qu'on a dit déjà, au rapport par exemple au silence, à la dimension du corps, à l'animal, tout ça, toutes les choses qu'on a évoquées ou signifiées, on a toujours pensé, je pense, sans jamais la nommer à la femme. Il y a un côté féminin de l'imagination. Je pense que moi-même, j'assume une condition féminine quand je suis en train d'imaginer des choses. Et c'est vrai que l'imagination, la fantaisie est née grâce aux femmes. Donc, à cause de la soin qui, dans le passé, à l'époque des cavernes, par exemple, la femme restait normalement dans la caverne en attendant les chasseurs. Donc, pour gagner du pouvoir, comment dire, ils ont inventé peut-être la fantaisie, ils ont inventé l'art.
Ça, c'est une chose qu'on voyait très clairement dans Golden Moses. Mais les communautés de femmes. Comme dans Oedipe Tyran, Four Seasons Restaurant, mais dans Golden Moses, toute la dernière séquence, dans cette caverne, c'était une femme qui traversait les âges, pourrait-on dire, celle qu'on rencontrait au début et qui se retrouvait dans cette grotte préhistorique et qui, à la fois, successivement, enfante. Cet enfant meurt et elle invente la sépulture. Et ensuite, elle invente l'art avec une main positive sur la paroi de la grotte et à nouveau, elle enfante.
Oui.
Mais tout est là.
Absolument. Je pense que l'imagination, la fantaisie naît une fois que l'image apparaît chez les hommes. L'image, véritablement, aussi selon les paléanthropologues, c'était l'empreinte d'une main. Main, que apparemment il s'agissait d'une main féminine. Mais c'est logique, parce que celui qui porte en soi le mystère de la vie, c'est celui qui invente l'enterrement. Et l'enterrement, c'est un geste culturel, c'est un geste encore plus spirituel, et c'est seulement. Logiquement, c'est seulement celui qui invente ce geste culturel qui peut imaginer l'image. L'image, c'est une déclaration de distance. Donc on a l'image parce que on a une distance. Donc c'est toujours c'est comment dire une impronta, l'image de d'une référence. Donc l'image de la main c'est une référence à la vraie main. Donc la référence dans la référence il y a une distance, quelque chose qui manque. Et donc des femmes toujours selon les paléanthropologues ont eu cette capacité de imaginer l'imagination. Donc l'image qui est la naissance de l'art, c'est aussi la naissance de la religion. C'est le même geste. Et après, ils ont développé deux techniques. La religion a essayé de remplir un vide. L'art, elle a gardé la manque.
Le manque, on va l'entendre une dernière fois et très fortement avec le dernier invité de cette scène imaginaire de Romeo Castellucci sur France Culture à l'Odéon Théâtre de l'Europe. C'est, on l'a évoqué tout à l'heure, le poète allemand Friedrich Hölderlin, qui est aussi une façon de revenir à la Grèce antique, à travers ce qu'on a appelé la Grèce de Hölderlin, mais on a eu l'occasion de l'évoquer ensemble ailleurs. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces 36 dernières années de la vie de Hölderlin, reclus dans la chambre, dans une tour, dans la maison d'un menuisier qu'il a accueilli, Ernst Zimmer, c'était à Tübingen. Qu'est-ce qui se passe pendant 36 ans dans cette chambre ronde avec Hölderlin?
Non, c'est une image d'abord très, 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 très touchante. C'est l'image de la folie. Donc, c'est lui qui n'est. On peut penser aussi à des autres philosophes, aux hommes de théâtre, comme Artaud, cet destin, non, d'avoir, comment dire, regardé le soleil. Donc on a l'impression que ces gens-là, ils ont la défis était tellement haut, donc c'était comme regarder le soleil, je pense. Donc c'est... Hölderlin, c'était une découverte assez récente, il y a quelques années, que j'ai redécouvert la puissance de ces poètes. Donc, d'un côté, il y a la théorie, il y a aussi la théorie du tragique, parce que lui-même, il a développé une théorie extrêmement sophistiquée du tragique. Donc, même lui, donc, vous voyez, il y a beaucoup de références à la tragédie, parce que, voilà... Parce que c'est, dans ces jours, on parle beaucoup de cette chose. Mais lui, il a, en tout cas, il y a une tentative d'être face à la tragédie, mais évidemment, il s'agit d'une tentative impossible. Impossible. Ce n'est pas possible de reconstruire la tragédie. Cette tentative, mais qu'il faut le faire, ça passe nécessairement à travers l'échec. Et lui, je pense, il a payé beaucoup cet effort. C'était une question, c'était tout le devoir de sa vie. Et la fin de sa vie a été justement enfermée dans la tour. C'est aussi une image très belle et très touchante de l'image de l'artiste, je pense, qui est éloigné de la société. Il n'y a rien à dire. Personne ne peut lui comprendre. Je pense qu'il y a aussi, c'est une image aussi d'une telle clarté, d'une telle aussi honnêteté. Et donc, il a passé toutes les dernières années à écrire des poésies avec les titres de les saisons. Le printemps, l'automne, de très mauvaises poésies. Vraiment, et par contre, on pense à lui comme un des plus grands poètes au monde. Et ça, c'est, je trouve, qui est quelque chose qui... Très touchant.
Ce sont donc deux courts poèmes de Hölderlin qui vont conclure cette scène imaginaire avec vous, Romeo Castellucci. Ils sont extraits de l'édition de l'œuvre poétique complète de Friedrich Hölderlin, publiée aux éditions de La Différence. C'est une traduction de François Garrigue.
Ô jeune poète, mes chers frères, notre art peut-être devient mûr quand, tel l'adolescent à bout d'effervescence, il touche au calme du beau. Soyez bons, comme était le grec. Aimez les dieux, pensez aux mortels en amis, fuyez fièvre et froideur, leçons et descriptions, Si le maître vous fait peur, consultez la grande nature.
Le printemps. Le soleil retourne à des joies nouvelles. Le jour étale ses rayons comme les fleurs. De la nature, l'ornement se montre au cœur, tout comme on jaillit chant et villanelle. Le monde neuf sort du fond des vallées, sereine et du printemps la première heure. Des hauteurs luit le jour. La vie de la soirée se donne aussi à la pensée intérieure.
Et comme ça, nous allons pouvoir remercier une dernière fois Clara Chabalier et Pierre-François Garel pour leur lecture ce jour. Remercie bien sûr toutes les équipes du Théâtre de l'Odéon et celle de France Culture et donner rendez-vous pour une prochaine scène imaginaire dans quelques semaines avec comme invité Richard Peduzzi. Et il me reste surtout à dire un grand merci à Romeo Castellucci.
Merci à vous.
Vous venez d'entendre la scène imaginaire de Romeo Castellucci, présenté et animé par Arnaud Laporte. Enregistré en public à l'Odéon Théâtre de l'Europe le samedi 5 décembre 2015 dans le cadre des bibliothèques de l'Odéon. Une coproduction France Culture, Théâtre de l'Odéon. Les textes étaient choisis par Romeo Castellucci et lus par Clara Chabalier et Pierre-François Garel. Prise de son, montage et mixage, Bernard Legac et Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Coordination, Guillaume Rialan. Réalisation, Baptiste Guiton. Remerciements à Marilène Boulan et aux équipes de l'Odéon Théâtre de l'Europe.